L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Cependant, Véronique ne bougeait point. Elle avait l'intuition que le danger n'était pas du côté du prieuré, mais ici même, du côté des cellules. Elle se demandait si réellement François avait pu s'enfuir et si, avant que sa tâche fût terminée, il n'avait pas été surpris par l'autre et frappé par lui. Doute affreux. Elle se baissa vivement et, constatant que l'ouverture avait été élargie, voulut passer à son tour. Mais l'issue, tout au plus suffisante pour un enfant, était trop étroite pour elle, et ses épaules furent arrêtées. Elle s'obstina néanmoins, déchira son corsage, se meurtrit la chair aux saillies du roc, et enfin, à force de patience et de tâtonnement, réussit à se glisser. La cellule était vide. Mais la porte était ouverte sur les couloirs opposés, et Véronique eut l'impression seulement, car il ne venait de la fenêtre qu'une faible lumière, que quelqu'un sortait de la cellule par cette porte ouverte. Et elle gardait de cette vision si confuse d'une silhouette qu'elle n'avait pour ainsi dire pas vue, la certitude que c'était une femme qui se cachait là, dans le couloir, une femme surprise par son irruption inattendue. C'est leur complice. Elle est montée avec l'enfant qui a tué Stéphane, et sans doute a-t-elle emmené François. Peut-être même, François est-il encore là, tout près de moi, tandis qu'elle me surveille. Cependant, les yeux de Véronique s'accoutumaient à la demi-obscurité, et elle vit distinctement qu'il y avait sur le battant de la porte, lequel s'ouvrait à l'intérieur, une main de femme qui tirait doucement. Pourquoi ne ferme-t-elle pas d'un coup? Pourquoi, puisqu'elle veut évidemment mettre cette barrière entre nous? La réponse, Véronique la connut en entendant, sous le battant, le grincement d'un caillou qui faisait obstacle. L'obstacle supprimé, la porte serait close. Sans hésitation, Véronique s'avança, saisit une énorme poignée en fer et tira vers elle. La main disparut, mais l'effort adverse continua. Et il devait y avoir aussi une poignée de l'autre côté. Tout de suite, un coup de sifflet retentit. La femme demandait du secours. Et presque en même temps, dans le couloir, à quelque distance de la femme, un cri.
« Maman ! Maman !»
Ah, ce cri ! Avec quelle émotion profonde Véronique l'entendit. Son fils, son vrai fils l'appelait. Son fils encore prisonnier, mais vivant. Oh, quelle joie surhumaine.
« Me voici, mon petit ! Vite, maman ! Ils m'ont attaché et le sifflet, c'est leur signal. On va venir ! Me voici ! Je te sauverai avant !»
Elle ne doutait pas du dénouement. Il lui semblait que ses forces n'avaient pas de bornes et que rien ne pourrait résister à la tension exaspérée de tout son être. De fait, l'adversaire faiblissait, abandonné peu à peu du terrain. L'ouverture devenait plus grande et subitement la lutte fut terminée. Véronique passa. La femme avait fui déjà dans le couloir et tiré l'enfant par une corde pour le contraindre à marcher malgré les liens qui l'attachaient. Vaine tentative. Elle y renonça aussitôt. Véronique était près d'elle, le revolver au poing. La femme lâcha l'enfant et se redressa dans la clarté qui provenait des cellules ouvertes. Elle était vêtue de laine blanche, avec une cordelière autour de la taille, les bras à demi nus, le visage encore jeune mais flétri, maigre et ridé. Sa chevelure était blonde, coupée de mèches blanches. Ses yeux brillaient de fureur haineuse. Les deux femmes se regardaient, sans un mot, comme deux ennemis qui se sont mesurés et entre lesquels la bataille recommencera. Triomphante, Véronique souriait presque, d'un sourire de défi. À la fin, elle dit « Si vous touchez du bout du doigt à mon enfant, je vous tue. Partez !» La femme n'avait pas peur. Elle semblait réfléchir et prêter l'oreille dans l'attente d'un secours. Rien ne venait. Alors elle baissa les yeux vers François et fit un mouvement comme pour ressaisir sa proie. « N'y touchez pas ! N'y touchez pas ou je tire !» La femme haussa les épaules et scanda. « Pas de menace ! Si j'avais voulu le tuer, ton enfant, ce serait déjà fait. Mais son heure n'est pas venue, et ce n'est pas par moi qu'il doit mourir. » Malgré elle, Véronique murmura, toute frémissante, « Par qui doit-il mourir ?»«
Par mon fils, tu sais, celui que tu viens de voir. »
« C'est votre fils, l'assassin, le monstre ?»«
C'est le fils de...
Taisez-vous ! Taisez-vous ! » ordonna Véronique, comprenant que cette femme avait été la maîtresse de Vorsky et craignant qu'elle ne fît quelques révélations devant François.
« Taisez-vous ! Ce nom-là ne doit pas être prononcé. Il laissera quand il le faudra.
Ah, si j'ai souffert par toi, Véronique, c'est à ton tour, et tu n'en es qu'au début.
« Va-t'en !»
cria Véronique, l'arme toujours braquée.
« Pas de menace, encore une fois. Va-t'en ou je tire ! Sur la tête de mon fils, je le jure !»
La femme recula, inquiète quand même, mais un nouvel accès de rage la souleva. Impuissante, elle porta ses deux poings en avant et articula d'une voix rauque et saccadée
« Je me vengerai. Tu verras ça, Véronique. » La croix, comprends-tu? La croix est dressée. Tu es la quatrième. Quelle vengeance!
Ses poings secs et noueux s'agitaient. Elle dit encore,
« Ah, comme je te hais! 15 ans de haine! Mais la croix me vengera. C'est moi qui t'attacherai là-haut. La croix est dressée! »
Elle s'en alla lentement, toute droite, sous la menace du revolver.
« Maman, ne la tue pas, n'est-ce pas ?»
murmura François, devinant le combat qui se livrait dans l'âme de sa mère. Véronique sembla se réveiller et répondit
« Non, 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 ne crains rien. Cependant, on devrait peut-être... « Oh, je t'en prie, laisse-la, maman, et allons-nous-en. »
Elle le souleva dans ses bras avant même que la femme eût disparu. Le pressa contre elle et l'emporta jusqu'à la cellule, comme s'il n'eût pas à peser plus qu'un petit enfant.
« Maman ! Maman !
Oui, mon chéri, ta maman. Et personne ne t'arrachera plus à moi, je te le jure. »
Sans se soucier des blessures que la pierre lui faisait, elle se glissa presque d'un coup cette fois par la fente que François avait pratiquée dans le mur. Puis elle attira l'enfant et seulement... elle prit le temps de le délivrer de ses liens.
« Plus de danger ici, du moins pour le moment, puisque l'on ne peut guère nous attaquer que par cette cellule et que je saurais bien en défendre l'issue. » Ah, de quelle étreinte ils se serrèrent l'un contre l'autre! Aucun obstacle ne séparait maintenant leurs lèvres et leurs bras. Ils se voyaient, ils se regardaient à même les yeux. « Mon Dieu, que tu es beau, mon François !»
Elle ne lui trouvait point de ressemblance avec l'enfant meurtrier et s'étonnait qu'Honorine eût pu les confondre l'un avec l'autre. Et elle ne se lassait pas d'admirer la noblesse, la franchise et la douceur de son visage.
« Et toi, ma maman, supposes-tu donc que j'imaginais une mère aussi belle que toi ? Non, pas même dans mes rêves, quand tu m'apparaissais sous l'aspect d'une fée. Et cependant, Stéphane m'a souvent raconté... »
Elle l'interrompit. « Dépêchons-nous, mon chéri. Il faut nous mettre à l'abri de leur poursuite. Il faut s'en aller. »«
Oui, et surtout s'en aller de Sarek. J'ai combiné un plan de fuite qui doit forcément réussir. Mais avant tout, Stéphane, qu'est-il devenu ? J'ai entendu au-dessous de ma cellule le bruit dont je t'ai déjà parlé, et je crains... »
Sans répondre à sa question, elle l'entraîna par la main.
« J'ai beaucoup de choses à te révéler, mon chéri. » Des choses douloureuses que tu ne dois plus ignorer, mais tout à l'heure. Et pour l'instant, il faut nous réfugier au prieuré. Cette femme va chercher du secours et nous poursuivre. Mais elle n'était pas seule, maman. Et quand elle est entrée brusquement dans ma cellule et qu'elle m'a surpris en train de creuser le mur, quelqu'un l'accompagnait.
Un enfant, n'est-ce pas ? Un garçon de ta taille.
Je ne l'ai guère vu. Ils se sont jetés sur moi, la femme et lui,
Ils m'ont attaché et porté dans le couloir. Puis la femme est partie un moment. Et lui, il est revenu vers la cellule. Il connaît donc maintenant ce tunnel et l'issue qui débouche au prieuré.
Oui, je sais. Mais nous aurons facilement raison de lui. Et nous boucherons cette issue.
Mais il reste le pont qui relie les deux îles.
Non, je l'ai incendié. Le prieuré est absolument isolé. Ils marchaient rapidement. Véronique pressant l'allure, François un peu inquiet des paroles que prononçait sa mère.
« Oui, oui, je me rends compte en effet qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore et que tu m'as cachées pour ne pas m'effrayer, maman. Ainsi, ce pont que tu as brûlé, avec l'essence préparée, n'est-ce pas? Et comme c'était convenu avec Magnoc en cas de péril, on te menaçait donc aussi? Et la lutte avait commencé contre toi, maman? Et puis, certaines paroles que cette femme a prononcées avec tant de haine? Et puis surtout, qu'est devenu Stéphane? Dans ma cellule, tout à l'heure, ils ont parlé de lui à voix basse. Tout cela me tourmente. Je ne vois pas non plus l'échelle que tu avais apportée.
Ah, je t'en prie, mon chéri, ne perdons pas un instant. La femme aura trouvé du secours. On est sur nos traces. L'enfant s'arrêta net.
Maman!
Quoi? Tu entends quelque chose?
On marche.
Tu es sûr?
On marche à notre rencontre.
Oh, c'est l'assassin qui revient du prieuré. Elle tâta son revolver prêt à tout. Mais soudain, elle poussa François vers un coin d'ombre qui s'ouvrait à sa droite et qui était formé par l'amorce d'un de ces tunnels, probablement obstrués, qu'elle avait remarqué en venant.
Là, nous serons bien. Il ne nous verra pas.
Le bruit se rapprochait.
Renfonce-toi et pas un mouvement.
L'enfant murmura.
Qu'est-ce que tu as à la main? Ton revolver? Oh, maman, tu ne vas pas tirer.
Je devrais. C'est un tel monstre. C'est comme sa mère. J'aurais dû. Nous regretterons peut-être. Et elle ajouta presque à son insu. Il a tué ton grand-père.
Oh, maman. Maman.
Elle le soutint pour qu'il ne tombât point, et dans le silence, elle entendit les pleurs de l'enfant qui sanglotait contre elle et qui balbutiait.
« N'importe, ne tire pas, maman !»«
Le voilà, mon chéri, tais-toi, le voilà, regarde-le !» L'autre passa. Il marchait lentement, un peu courbé, l'oreille aux aguets. Il parut à Véronique exactement de la même grandeur que son fils. Et cette fois, en le regardant de façon plus attentive, elle ne s'étonna pas trop qu'Honorine et M. d'Hergemont se fussent trompés, car il existait réellement des points de ressemblance qu'avait dû accentuer le port du béret rouge dérobé à François. Il s'éloigna.
« Tu le connais ?»
demanda Véronique.
« Non, maman. »
Tu es certain de ne l'avoir jamais vu?
Certain.
Et c'est bien lui qui s'est jeté sur toi dans la cellule avec la femme?
Je n'en doute pas, maman. Il m'a même frappé au visage, sans raison, avec une véritable haine. Oh, tout cela est incompréhensible. Quand donc échapperons-nous à ce cauchemar? Vite, maman, le chemin est libre, profitons-en.
Sous la lumière, elle vit qu'il était tout pâle. Et elle sentit sa main glacée dans la sienne. Pourtant, il lui sourit d'un air heureux. Ils repartirent, et bientôt, après avoir franchi le pan de falaise qui réunissait les deux îles et remonté les escaliers, ils débouchaient en plein air, à droite du jardin de Magnoc. Le jour commençait à baisser.
Nous sommes sauvés. Oui, mais à condition que l'on ne puisse pas nous rejoindre par le même chemin. Il s'agit donc de le barrer.
« Comment ? » ?»«
Attends-moi, je vais chercher des instruments au prieuré. »« Oh non, ne nous quittons pas, François. »« Allons-y ensemble, maman. »« Et si l'ennemi arrive pendant ce temps ?»« Ah non, il faut défendre cette sortie. »« Alors aide-moi, maman. »
Un examen rapide leur montra que l'une des deux pierres qui faisaient voûte au-dessus de l'entrée n'avait pas de racines bien profondes. Ils n'eurent point de mal, en effet, à l'ébranler d'abord, puis à la déchausser.
La pierre tomba en travers de l'escalier et fut aussitôt recouverte par un éboulis de terre et de cailloux qui rendait le passage, sinon impraticable, du moins difficile.